Cité Philo, c'est la 27e édition pour ces semaines européennes de la philosophie, et notamment à Lille. Invité d'honneur, l'Ukraine, avec un grand thème, où va le travail ? Donc c'est le thème que l'on va traiter aujourd'hui avec notre invité, donc, qui n'est pas une inconnue dans la région, et qui peut peut-être rappeler rapidement son parcours, pourquoi elle s'investit dans cette édition, et puis peut-être dans d'autres hein, d'ailleurs. En tout cas, j'ai le plaisir donc, d'accueillir Véronique Châtenay-Dolto pour la présentation de ce grand thème, et puis la, on va dire la séquence inaugurale avec cette leçon qui va être donnée très prochainement. Bonjour et bienvenue à Radio Campus.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors, peut-être qu'on peut faire un petit peu le point. Le festival a démarré. Il en est déjà à quelques semaines. Il s'est passé sans doute beaucoup de choses tant il est concentré. Où on en est aujourd'hui et pour les prochaines semaines, sur ce thème notamment du travail ?
Effectivement, le festival a démarré et voilà, je nuance un petit peu votre phrase précédente. Il a démarré vendredi avec la leçon inaugurale qui a été confiée le 10 novembre à Dominique Méda, qui est à la fois philosophe et sociologue et qui nous a apporté un éclairage extrêmement brillant, vif et vivant sur la crise actuelle que traverse le travail, qui était cette notion que l'on voulait interroger dans une région qui a des richesses importantes à ce sujet, non seulement les archives du monde du travail à Roubaix, mais l'association Bassin Minier qui recueille aussi, pas des archives, mais un certain nombre d'activités autour du passé minier et l'inscription du Bassin Minier à l'UNESCO. Alors, les rencontres ont déjà commencé. Il y a 14 rencontres qui ont été introduites par Dominique Méda, alors on pourrait dire 15 au total, qui déclinent avec les interventions de philosophes, de sociologues, d'historiens, d'anthropologues, une analyse et une description, une évaluation de cette crise du travail qui se traduit de multiples manières, mais principalement par le sentiment que ressentent beaucoup de travailleurs au sens large et de travailleuses, que le travail qu'ils effectuent perd de son sens, qu'ils vivent constamment sous pression, sous une pression liée aux résultats qu'on leur demande, d'une organisation qui n'est plus à la dimension des unités de travail, un travail qui est parcellisé, qui est précaire souvent. On a eu une table ronde la semaine dernière avec deux sociologues et un économiste qui est professeur à l'Université de Lille, François-Xavier de Véter, avec Nicolas Roux, Nicolas Jounin, sur les formes que prend cette précarité, sur l'impact qu'elle a sur les hommes et les femmes, qu'ils travaillent dans le bâtiment ou dans les services à la personne, dans le domaine de la petite enfance et dans le domaine de l'aide aux personnes âgées, donc dans des métiers essentiels et pourtant dégradés, souvent méprisés, peu qualifiés ou considérés comme ne devant pas forcément demander beaucoup de qualifications et sous-payés. Précarité, éclatement des horaires, difficulté pour les jeunes de plus en plus de trouver un travail stable, donc multiplication des stages, des contrats courts avant, s'ils le souhaitent, d'obtenir un CDI. Mais par exemple, hier, à l'école de journalisme de Lille, Sophie Bernard, qui vient de publier un livre qui s'intitule « Uber usé » et qui travaille sur la question des travailleurs et travailleuses des plateformes, a montré comment l'implantation à Paris, à Londres et à Montréal de l'entreprise Uber, implantation illégale et pourtant accueillie à bras ouverts, en tout cas en France, comme l'ont montré les Uber Files, les échanges de messages, y compris avec des membres du gouvernement, pour favoriser la dérégulation du marché des transports de personnes. Elle a bien expliqué comment le phénomène s'était implanté et que Hubert a tenu un an, deux ans, trois ans, parce qu'ils ont de l'argent pour payer, pour verser les amendes qu'on leur demande, et ils attendent que la situation s'adapte à leur volonté. Et on a ensemble réfléchi à, au développement de ces métiers, une sorte de prolétariat qui remplacerait celui qu'on a connu au 19e siècle, voire même au 18e, 19e siècle, 20e siècle, le prolétariat dans les usines, et qui devient, qui revient sous une nouvelle forme. Donc, de façon soi-disant indépendante par comment dire, ces formes d'emploi chauffeur, chauffeur-livreur, ou qui revient sous d'autres formes dans les entrepôts où de nombreux travailleurs travaillent dans la logistique et sont en permanence contrôlés, surveillés, poussés par une sorte de surveillance un peu désincarnée. Et ça, c'est quelque chose dont nous a parlé également il y a quelques jours Christophe Dejour, qui est à la fois un psychodynamicien du travail, un psychologue, un psychiatre, qui est un peu le grand connaisseur de ces questions. Il enseigne au CNAM, au Centre National des Arts et Métiers. Et il a été en dialogue avec des philosophes, Katia Genel, qui est une chercheuse qui travaille sur l'école de Francfort, ce qu'on appelle cette école, une école de la critique du travail. Ce sont les néo-marxistes. Elle et d'autres, Alexis Cuquier, qui est également philosophe, ou Arnaud François, qui viendra la semaine prochaine parler du travail et de la vie, c'est le titre d'un de ses livres, réfléchissent à cet aspect paradoxal du travail qui est au centre de nos vies, qui souvent donne du sens à nos vies, auxquelles nous dévouons d'une certaine manière, alors pour gagner notre vie, mais faut-il pour autant perdre sa vie pour la gagner, c'est-à-dire accepter des conditions de travail dégradées parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, à mon avis, le fil conducteur qu'on peut retrouver au-delà de cette question de la crise actuelle du travail, enfin actuelle sur ces 10 dernières années environ, et qui a été révélée beaucoup pendant la pandémie, quand on a applaudi les caissiers, les éboueurs, les aides-soignants, toutes sortes de personnes qu'on a considérées comme des héros pour les oublier immédiatement après, parce qu'ils sont plus ou moins invisibles dans notre société. L'opposition que l'on fait souvent, ou cette espèce de fausse opposition entre développer des emplois, mais en payant le prix en termes de dégradation du travail. Or, il n'y a aucune raison que les emplois soient aussi dégradés, dévalués. On a parlé beaucoup avec François-Xavier Devetter des emplois des femmes, ce sont souvent des femmes, employées par des sous-traitants qui, dans les entreprises, viennent faire le ménage. Indispensable pour la vie d'une entreprise, mais elles aussi, elles sont invisibles. Ce sont des types de métiers qui requièrent des compétences qui sont pénibles physiquement et dont l'ensemble des compétences pourraient être reconnues et pourraient être défendues. Mais ce sont souvent des travailleurs et des travailleuses isolés. Jeudi prochain, le 17 novembre, il y aura une rencontre autour d'un livre écrit par une sociologue qui s'appelle Alizée Delpierre sur les domestiques chez les grandes fortunes. Ça s'appelle « Servir les riches, la domesticité dans les grandes fortunes ». Alors, c'est un cas un peu particulier, mais assez exemplaire d'une forme de domination extrême très peu encadrée et très peu défendu, parce que ce sont des emplois où les gens sont à domicile, ils croisent très peu des gens qui font le même métier qu'eux, et comment dire, il y a peu de collectifs de travail dans ces métiers caractérisés par l'isolement, la précarité, le peu de de capacité à se défendre. Alors, mm-hmm. peu de capacité, ça ne veut pas dire pas de capacité.
Est-ce qu'on peut dire aussi que ces personnes perdent leur identité ? On leur prend leur passeport, etc., parfois même.
Alors, dans l'étude d'Alizé Delpierre, ce n'est pas le cas. Dans le, par exemple, les travaux de Nicolas Jounin qui portent par exemple sur la grève des sans-papiers dans les ferrailleurs, hein, dans le domaine du bâtiment, ça n'est pas le cas non plus. Quoique, une partie importante, au su et au vu de tout le monde, hein, y compris des employeurs, sont des gens qui n'ont pas de papier. Alors, on n'a pas besoin de leur prendre leur passeport, ils ne l'ont pas. Hein. Donc, leur vulnérabilité, si c'est ça le sens de votre question, elle est grande en effet. Et il y a pourtant eu plusieurs grèves. Alors, on se souvient de la grève des sans-papiers et de l'occupation de l'église Saint-Bernard, ce qui était une forme de lutte soutenue par des gens connus qui apportaient leur notoriété pour rendre visible cette lutte. Récemment, des grèves de sans-papiers ont même abouti à l'occupation du lieu de travail, ce qui est prendre un grand risque pour les personnes. Je dirais même en situation régulière, personne ne s'engage dans cette voie totalement illégale de gaieté de cœur, hein, s'il faut vraiment être dos au mur. Mais c'était intéressant ce que disait Nicolas Jounin sur compte tenu du contexte actuel et des débats qui ont lieu actuellement au Parlement, hein, pour durcir la loi du point de vue de la... en rendant plus précaire encore la situation des travailleurs, sauf ceux qui relèveront d'une liste de métiers dits utiles.
Sous tension.
Voilà, sous tension. Ce qui peut aller loin, hein, parce que des aides-soignants, des auxiliaires de vie sont des métiers de service dont on a beaucoup besoin. Alors voilà. Je peux citer un autre débat qui était très intéressant, même si le sujet est technique. C'est François Jarige, un historien, qui a publié un livre qui s'appelle « La ronde des bêtes ». Et ça concerne d'ailleurs tout à fait les Hauts-de-France et plus particulièrement le Nord-Pas-de-Calais, puisque dans les mines ou dans les moulins, au XVIIIe, XIXe siècle, et voire début du XXe siècle, des chevaux, parfois des bœufs, étaient attachés à des roues et des mécanismes souvent très complexes. Au moment même où le développement des moteurs à vapeur se faisait, il y avait des moteurs à propulsion animale. Et lui, c'est un historien des techniques de l'énergie, enfin des différents types d'énergie, énergie animale comme énergie fossile. C'était extrêmement intéressant de remettre en perspective cette histoire et aussi, d'une certaine manière, la présence de ces animaux qui peuvent aussi être des chiens. Dans le Nord, Pas-de-Calais, on a une tradition avec les pigeons qui peuvent être dressés, je ne pense pas que ce soit le terme, mais envoyer des messages, etc. C'était intéressant cette histoire des animaux prolétaires, d'une certaine manière, encore plus prolétaires que les humains prolétaires, et cohabitant avec des humains au travail. Alors, il y aura... jusqu'au 25 novembre, encore des rencontres. Je pourrais citer une rencontre sur la préservation de la mémoire ouvrière. J'ai cité les archives du monde du travail, mais aussi toutes ces traces du monde ouvrier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour qui ? Qu'est-ce qu'on préserve réellement ? Est-ce que ce sont des totems que nous disent-ils encore aujourd'hui ? Et il y aura aussi une rencontre avec un historien qui s'appelle Xavier Vignat et un sociologue Yves Cohen sur l'expérience ouvrière. Donc Xavier Vignat, il a beaucoup travaillé sur l'histoire ouvrière et sur le recueil des récits faits par les ouvriers eux-mêmes sur leur vie. Tandis que Yves Cohen a publié un livre absolument magistral sur l'histoire de l'autorité. Alors, l'autorité dans les usines, il a été établi pendant 7 ans dans les usines Citroën à Sochaux. Et par ailleurs, il est sociologue, donc c'est un travail scientifique sur l'organisation, souvent à partir des ingénieurs, où le, voilà, la relation patron-ingénieur-ouvrier. Et donc ça, ce sera le 24 et le 25 novembre. Voilà, il y a d'autres rencontres que je n'ai pas encore citées et qui sont dans le programme de Cité Philo et sur le site internet.
Voilà, alors sur le site, on peut déjà retrouver des conférences, des présentations de soirées.
Alors, il y en a déjà plusieurs qui ont été enregistrées sous forme audio et qui sont sur le site, celle de Dominique Méda que vous avez citée tout à l'heure, oui. Et d'autres jusqu'à il y a 48 heures. Elles sont quasiment le lendemain ou le surlendemain présentes sur le site pour ceux et celles qui veulent réécouter.
Voilà, donc ça c'est évidemment un must, hein, c'est passionnant de pouvoir avoir cette mémoire et ce temps a posteriori de réflexion complémentaire.
Et on peut même lire les livres.
Ah oui, donc l'importance du livre pour documenter, mais aussi pour réfléchir.
Absolument, réfléchir, approfondir, discuter, poser des questions. Donc c'est pour ça que c'est important que ceux et celles que ça intéresse et qui ont la possibilité de le faire viennent. Parce qu'il y a toujours au moins une demi-heure de temps offert au public pour poser des questions qui sont toujours très intéressantes et qui permettent aux auteurs qui sont présents d'approfondir ce qu'ils ont dit auparavant dans le dialogue avec le ou la modératrice.
Alors, question de notre journaliste qui est impatient. Il est venu la semaine dernière déjà pour questionner notre invité précédent. Donc, c'est à toi, Florian.
Oui. Moi, j'avais peut-être une question, justement. Vous parliez justement de l'isolement avec ces nouveaux travailleurs qui sont dans des métiers de service. Donc, je parle femme de ménage, aide ménagère, aide aux personnes, etc. Et Dominique Méda, justement, dans la leçon inaugurale, parlait justement d'une plus faible collectivisation. J'entends par là que les syndicats sont moins de personnes se trouvent dans des syndicats, etc. Et est-ce que, justement, aussi, cet isolement, ça ne participe pas aussi à ce manque de collectivisation justement dans les syndicats avec une tertiarisation des métiers qui est toujours plus présente entre guillemets dans notre société.
Alors, si je comprends bien votre question, comment dire, oui, les syndicats sont plus faibles et il y a moins d'adhérents, mais c'est le développement des métiers où les gens sont isolés. Et où les syndicats, si on prend l'exemple des femmes de ménage, les syndicats, ils ont comme priorité de défendre leurs adhérents. Et elles sont souvent employées par des sous-traitants. Donc, elles ne savent même pas vraiment très clairement qui est leur vrai patron. Donc, il y a un vrai travail là-dessus. Comment dire ? On a vu quand même qu'il y a eu des mouvements sociaux dans les grands entrepôts d'Amazon. Donc, c'est possible de créer des collectifs de travail. Ça a été vrai pour les livreurs à vélo, mais c'est plus difficile.
Donc, Véronique Châtenay-Dolto, ce que je propose maintenant, c'est un témoignage direct d'une personne qui a travaillé justement dans les plateformes dont vous parlez là et qui va nous livrer sa vision de sa vie. J'allais dire animal quasiment. Enfin, je vous laisse apprécier une vie très difficile et je vais vous laisser poursuivre votre œuvre. Et merci d'être venu nous présenter donc, cette édition de Cité Philo 2023.
Merci à vous pour votre invitation.
C'est un grand plaisir.